Vous écoutez Délirium environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Écoutez, il y a des tonnes de sujets qu'on veut vous parler, mais évidemment, la question du transport est inévitable puisqu'on on est des fervents amateurs de chars ici au Québec. Et puis qu'on a des petites habitudes qui influencent malheureusement notre environnement. Cette question de transport, évidemment, est directement reliée à la question du transport en commun. Hugo Lachapelle, tu nous en parles, c'est sous-financé cette histoire-là.
Eh bien, imaginez-vous donc que pour la première fois depuis 1996, la fréquentation de tout le réseau du transport en commun de Montréal et puis de sa banlieue est en baisse. Et puis d'ici la fin de 2004, on peut s'attendre à plus de d'une perte de plus de 2 millions de déplacements en métro, en train de banlieue, en autobus. Fait intéressant, c'est une bonne partie de cette perte de déplacement-là qui s'est effectuée à Montréal, donc sous le territoire de la STM. La STL de Laval, elle, est grande championne dans la perte de clientèle. On parle d'une baisse de 1,7% des clients. Et alors que Longueuil se maintient un peu plus stable avec une baisse de 0,6%. Par contre, ce qui nous sauve la face un peu, c'est qu'il y a une hausse de fréquentation dans les trains de banlieue et puis dans les autobus intermunicipaux, donc pour aller jusqu'à Sorel et ainsi de suite. Donc, en tout, au niveau du transport en commun pour toute la grande couronne de Montréal, on parle d'une baisse de 0,5% d'usagers, ce qui n'est pas à tasser du bord du revers de la main.
Évidemment, on se souvient que ces baisses d'achalandage-là sont directement proportionnelles à l'augmentation des tarifs. Et c'est ça pourquoi les gens prennent moins le métro. C'est un dissuasif fort puissant que l'aspect monétaire.
Et faut-il mentionner cette histoire de la CAM? N'y a-t-il pas eu une augmentation du tarif de la CAM?
En fait, depuis 2003, combien ça a augmenté encore? On a eu 3 augmentations. On parle d'une douzaine de dollars jusqu'à maintenant. On est rendu à combien? 58 dollars pour la CAM?
Et ça monte jusqu'à 60 en janvier.
On va le savoir au début décembre si c'est vraiment ce qui se passe. La CAM, je rappelle que c'est la carte qui vous permet de prendre le métro et l'autobus à Montréal. Donc, cette fameuse carte-là devrait passer de 59 à 62 $. C'est une autre augmentation et on prévoit des diminutions de transport d'assez énormes, en fait, de l'ordre de je vous reviendrai avec des chiffres.
Mais ce n'est pas tout, hein. En fait, si la CAM est en train de monter, on s'aperçoit que notre seul bastion d'usagers en croissance, les trains de banlieue et puis les autobus intermunicipaux, eux, on s'attend à ce que leurs frais augmentent très rapidement.
Aussi.
En fait, on parle, bon, c'est un peu mitigé, là, mais on parle d'une hausse de près de 4,1%. Imaginez-vous donc, des frais. Alors, ça pourrait vouloir dire de 4 à 6 $ environ de plus sur votre passe, mais ça va être... Il y a tout un système de répartition, finalement, assez complexe. Là. On va changer les zones et on va faire en sorte que, bon, certaines personnes paient plus qu'ils ne payaient avant et d'autres se retrouvent à payer plus ou moins également.
Et Hugo, tu sais-tu si ça va s'appliquer aussi en janvier comme le reste de la CAM ou...
Je crois que ça serait plus rapidement que ça, même.
Wow!
Mais en fait, ça reste à être annoncé.
Ça va être décidé.
Décidé.
Faites de la misère avec vos dates, mais tu...
Il y en a trop. Il y a trop d'affaires. Je vous le dis, ça fait 3 fois dans les 2 dernières années que ça augmente.
Bon, ben, crime. Écoutez, ça fait-tu le tour de la question des transports? Peut-être qu'on peut se plonger dans le plan d'urbanisme.
Scandaleux, les pistes cyclables ont été fermées le 1er novembre.
D'ailleurs, hein?
Ben, voyons donc. J'ai envoyé un mi-mail au maire, d'ailleurs. Il ne m'a pas encore répondu, ça fait une semaine.
Un petit plaisir que le ministre d'État de l'Infrastructure et des Collectivités au fédéral nous offre, M. John Godfrey, qui nous dit que finalement, d'un bord à l'autre du pays, tout le monde a bien envie de voir cette taxe fédérale-là sur l'essence être répartie entre les municipalités. On se rappellera que la taxe fédérale sur l'essence, quelques 5 cents le litre, pourrait amener des revenus pour le gouvernement de 5 millions de dollars en 5 ans. Et donc, il reste toujours à décider comment ces frais-là, comment cette ressource-là va être allouée. Et là, il y a le maire de Toronto qui nous a dit cette semaine dans la presse que finalement, ben, il y a encore toute la question des transports en commun qui reste à bien délimiter. Là, on veut s'assurer qu'une bonne partie de cet argent-là se retrouve à la remise à jour des infrastructures et à la construction de nouvelles infrastructures de transports en commun. C'est important. Est-ce qu'on vous le rappelle?
Mention, non. Hugo, je pense que tu avais quelque chose sur le plan d'urbanisme que tu voulais nous parler. Est-ce que tu peux me faire ça en 2 minutes?
Ben, en même temps, vite fait, le plan d'urbanisme, c'est le 22 novembre qui va être adopté. Et donc, il nous laisse...
de la ville de Montréal.
Oui, de la ville de Montréal, bien entendu. Il nous reste que très peu de temps pour aller critiquer certaines des choses qui sont mentionnées dans ce plan d'urbanisme-là. Petit côté intéressant, il y a une concession des autorités de la ville qui a fait en sorte que, bon, avant, on avait à 150 mètres de rayon autour des stations de métro, on pouvait se permettre de construire la moitié des stationnements requis par le plan normalement, le plan d'urbanisme. Maintenant, lorsqu'on construit un nouveau bâtiment, ce sera 500 mètres autour de la station de métro, où on aura la permission de construire deux fois moins de stationnement. Par contre, pour tous les autres, lorsqu'on construira un nouveau bâtiment en ville, que ce soit commercial ou domiciliaire, on parlera de toutes les personnes qui ne feront pas les parkings requis vont devoir payer une amende de 2 500 à 5 000 $. Donc, on veut forcer les gens à construire des parkings partout en ville, sauf à l'entour des stations de métro.
Donc ça, c'est le prochain plan d'urbanisme, celui qui a été déposé par l'administration Tremblay, celui qui est à moitié applaudi parce qu'il y avait
mitigé, certains bon et mauvais côté.
Ok. Est-ce que tu es en train de dire qu'on est obligé de construire des parkings encore malgré...
Ils vont construire des parkings encore, surtout dans le secteur pas industriel mais plutôt commercial.
Ok.
Et ça, on veut en faire, et même ceux qui veulent pas en faire, ceux qui veulent en faire moins, vont devoir payer une amende. Je sais pas si j'ai été clair à ce niveau-là.
Oui, oui. Si tu fais pas de parking, tu payes une amende. Hey. Si ça vous met en tigidou, en tabarnoutou, toulou, eh bien, allez voir le site d'Options Transport Durable. Vous aurez le lien sur radioderrière.net. Ils mettent également un lien pour Monsieur le maire. Et quand je disais tantôt que j'ai envoyé un courriel, c'est pas des blagues. Amusez-vous à envoyer des courriels et à poser des questions à vos représentants municipaux qui vont justement se rassembler ce 22 novembre-là. Et s'il y a de plus en plus de représentants, des députés ou whatever qui sont au courant, eh bien, ça risque de ne pas passer comme cela.
Ou si vous voulez aussi changer le monde à manière de ce que vous pouvez faire, vous pouvez devenir DJ puis faire des tunes sur les changements climatiques. On a d'ailleurs un extrait ici de MC Climatique qui nous fait 4x4 dans le 514.
Hey yo, pas de farce là, pas de 4x4 dans le 514. Hey toi, dans ton gros SUV,
dans ton suburban, t'es pas urban.
T'as-tu pas des boules? C'est toi qui crée une boboule.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Yo, combien de millages tu fais au galon? Dans ton camion, t'as George Bush à s'acheter des canons. Tu nous en perces avec tes émissions, des particules en suspension. Hey champion, pense-donc un peu aux autres générations.
Hey yo, t'as payé une maladie dans les poumons. Ta femme est stressée dans un bouchon. Ton fils s'est fait frapper par un soulon dans un Yukon. Toi, t'es plus gros que mon salon, gâteau vachon.
Alors, comment ça se passe sur les routes là ce soir?
Eh bien oui, Jules. Même si le prix de l'essence a monté, nos autoroutes restent bloquées.
C'est quoi tu veux, là? Bâtir des ponts? Des autoroutes en tronçon? T'es con, c'est pas une solution.
Le gouvernement ne donne pas d'option.
Restons!
Hey, yo, j'ai des stats à la pluie, c'est appel du trafic induit.
Fait que j'espère qu'on serait clair avec tous les propriétaires. C'est vous qui polluez la terre avec vos gaz à effet de serre.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Mets ton camion à maison, mon frère.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Ça pas de bon sens, faut en parler au maire.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Mets ton camion à maison.
C'était MC Climatique avec pas de 4x4 dans le 514. Vous allez sûrement entendre ça sur toutes les radios commerciales dans moins de 2 semaines. Écoutez, on continue cette revue de presse avec le dossier énergétique. Gros dossier, évidemment. Vous savez, au Québec, il y a une commission parlementaire qui est en train de se préparer. Ça fait longtemps que ça se prépare, cette histoire-là. Hein? Et puis, on savait pas ce qui allait se passer. Est-ce que les groupes allaient être invités à présenter leur mémoire, à être consultés, ou finalement, si ça allait être une commission publique? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a un scoop, encore une fois, du soleil, je crois.
Eh bien, on parle évidemment de la fameuse consultation parlementaire sur l'avenir énergétique du Québec.
Et de la sécurité énergétique.
On ne sait pas encore le nom que ça va avoir. Monsieur Sam Hamad, ministre des Ressources naturelles, va nous sortir les documents d'orientation sous peu pour cette fameuse consultation parlementaire. Présentement, on a appris, selon un scoop justement du Soleil de Québec, encore une fois, 10 novembre, Pierre Couture, qui a fait de l'excellent travail, que la consultation parlementaire se tiendrait en 2 temps, soit des experts de l'énergie au Québec au mois de décembre, maintenant, ben, au mois de janvier, tous les citoyens, individus, groupes qui se donnent la peine d'écrire un mémoire et de le proposer, eh bien, pourront aller représenter, présenter leur mémoire s'il est accepté, évidemment. Donc ça, je vous rappelle que c'était dans la plateforme libérale, soit les libéraux du Québec, qui parlait de faire une enquête scientifique indépendante sur le développement énergétique du Québec et qui devait rendre les résultats avant 2006. Donc le temps commence à rouler contre eux. Ce pourquoi cette fameuse consultation parlementaire qu'on attendait au début de l'automne, au début de la session parlementaire, pourquoi elle a été remise? Eh bien, on n'a pas de certitude, mais on a certaines pistes qui nous permettent d'identifier. Je ne sais pas si c'est un coupable ou simplement des raisons pourquoi ça aurait été remis. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez M. Stéphane Bertrand. Eh bien, Stéphane Bertrand, c'est le chef de cabinet de M. Charest, mais ce n'est pas tout. C'est également un ancien vice-président de Gaz Métropolitain.
Ah, tiens, tiens.
Et selon, justement, la presse du 12 novembre, eh bien, paraît-il que M. Bertrand aurait renvoyé M. Hamad à la planche de travail, à la table de travail, pour retravailler justement ce fameux document d'orientation-là pour la commission parlementaire. Pourquoi vous pensez qu'une personne de Gaz Métropolitain demanderait au ministre des Ressources naturelles de retourner à la table de travail? Eh bien, c'est, paraît-il, parce que justement, il faudrait faire une place un petit peu plus grande à la filière gazière. Où se trouve, évidemment, Gaz Métropolitain, pour ceux qui n'ont pas fait le lien entre les deux. Donc, probablement que le retard vient de là. En même temps, un petit mot rapide pour vous dire qu'on a deux terminaux gaziers qui risquent d'arriver au Québec, dont un à Gros-Cacouna, dans le coin de Rivière-du-Loup. Et ces terminaux gaziers-là qui reçoivent du gaz sous forme liquide qui vont être transformés, juste pour transformer le gaz de forme liquide à forme gazeuse pour qu'il soit transporté dans les gazoducs. On parle de 500 000 tonnes de gaz à effet de serre.
Ah, tiens donc.
500 000 tonnes, je ne sais pas si vous le savez, mais ça représente une augmentation substantielle.
Mais pendant que tu parles des ports méthaniers, je sais qu'il y a vraiment une opposition farouche qui est en train de se construire dans l'ensemble de la province sur ces questions. Vous savez, il y a deux ports méthaniers qui sont en négociation en ce moment. Il y a celui, comme tu mentionnais, à Gros-Cacouna, et il y a celui de Lévis-Beaumont. Je sais qu'il y a la coalition Rabat-Joie qui s'est formée. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, Patrick?
Eh bien, j'aimerais vous en parler énormément. Dans le peu de temps qu'on a fait, c'est que cette coalition prend de l'ampleur, sont maintenant rendus 9 organismes, et ça je vous rappelle que Lévis c'est juste en face de Québec et qui veulent mettre un terminal gazier là, 9 organismes qui disent que tout simplement on n'en veut pas ici, on veut que la Chambre de commerce refuse le projet d'emblée, pas besoin d'études des études de risque dirais que de faisabilité, donc en termes de danger également alentour, donc ils veulent absolument pas que ça arrive là. Ça c'est la coalition. À Gros-Cacouna par contre, l'autre endroit, ça a été reçu à bras ouverts jusqu'à maintenant.
Tiens, tiens. Donc, ils sont rendus à 9 groupes. Il y a, c'est la QLPA, hein, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, puis les Amis de la Terre qui viennent de rentrer. Donc, c'est rendu une coalition qui représente l'entièreté de la province, ce qui est intéressant. Pendant qu'on parle d'énergie, on peut pas passer à côté cette nouvelle de prospection de l'uranium en boom au Canada. Hugo Lachapelle, qu'est-ce que c'est cette histoire-là?
Ben oui, vous connaissez les déserts, ou plutôt les sables de l'Arthabasca. Ben, dans ce coin-là, on a beaucoup de pétrole, mais on a aussi de l'uranium dans le nord de la Saskatchewan. Et c'est une business en plein boom, en fait. Une des prochaines ressources dans lesquelles il va y avoir un gros boom. On nous dit que, finalement, avec toutes les préoccupations des gens quant aux émissions de gaz à effet de serre et ainsi de suite, le prix de l'uranium a commencé à monter beaucoup. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, dans les 20 dernières années, les pays du monde se sont efforcés de consommer une grande partie de l'uranium qui avait été utilisé, tout ce qui était l'uranium qui était utilisé pour les programmes militaires. Donc, on a commencé à utiliser ça pas mal. Et c'était, il y avait plus de la moitié de l'uranium qu'on utilisait qui provenait de ces stocks-là, donc déjà sur le sol. Alors, il y a une compagnie en Saskatchewan qui creusait et exploitait des ressources d'uranium pour vendre finalement à peu près un tiers de la production mondiale d'uranium. Et c'est en voie de grandir énormément, en fait, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des activités de prospection minière partout dans ce coin-là, du nord des prairies et des territoires du nord-ouest. On est en train de commencer à chercher aussi un peu dans d'autres pays, dont l'Australie, où on s'attend à ce qu'il y ait des vraiment gros gisements. Mais bon, avec tout ça, on parle de, bon, on se dit qu'il va y avoir un virage à l'uranium, virage au nucléaire de plus en plus. Il y a beaucoup de pays qui vont utiliser ça beaucoup. On parle de 16% en ce moment d'électricité au monde qui serait produit par quelques 430 réacteurs nucléaires. On s'attend à ce que en France, ça peut atteindre jusqu'à 75% de l'électricité qui serait générée par le nucléaire. On s'attend à ce que bientôt, quelques 30-32% de l'électricité mondiale soit produite par le nucléaire. Et ça, bon, on le dit pas comme ça dans le vide, là. C'est parce qu'il y a quelques 30 réacteurs qui sont en pleine construction en ce moment. Et un autre 70 réacteurs qui sont en train de se faire dessiner, qui sont en train de, qu'on prépare, là, à mettre en place.
Celui du Québec qu'on veut réfectionner.
Et effectivement.
Oui. Faut-il rappeler que cette centrale Gentilly 2 est en pleine analyse en ce moment, un bureau d'audience publique en environnement qui est en train de justement analyser qu'est-ce qui va se passer avec ce Gentilly 2. C'est inquiétant de voir ces nouvelles-là, puisque, vous savez, quand on analyse la question environnementale, évidemment, c'est intéressant, le nucléaire, point de vue émission de gaz à effet de serre, on parle surtout de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre, mais bon, non comptabilisé, mais c'est pas vraiment un polluant. Mais évidemment, quand on parle de problématiques environnementales, on parle des déchets nucléaires et des risques de catastrophes nucléaires, ce qui est non négligeable. Il y a toute la coalition sortir du nucléaire, en Europe, qui fait un travail exceptionnel pour que justement les pays européens sortent du nucléaire et qu'on se départisse de cette source d'énergie-là. Écoutez, on va faire un petit pont musical et puis on continue ces grosses questions de société et d'environnement.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
And danger, continuing danger now. September 11th, a dangerous world, a brave new threat. Horrific acts of atrocities,
murderous regimes
dedicating to killing us,
tyranny of hate,
slaughtered thousands,
weapons of mass destruction, weapons programs,
the deadliest of weapons,
terrible weapons, nuclear weapons,
poison gas,
torture chambers, mass graves,
deadly technologies,
radical ideology of hate,
terror a threat,
terror.
September 11th.
War on terrorism.
War against terrorism.
Global war on terror.
September 11th.
Terrorists.
Global terrorism.
Radical ideology of hate.
Terrorism.
Radical ideology of hate.
Saddam Hussein.
Radical ideology of hate.
The evil terrorists.
Imposer une indigestion de George W. Bush, pas pour rien. Qu'est-ce qui se passait le 6 novembre, Patrick Bonin?
C'était simplement pour vous rappeler que c'était la Journée internationale pour la prévention et l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Et vous rappelez que justement, lors de conflits armés, il y a énormément de dommages. On parle de dommages aux cours d'eau, risque de contamination, déplacement des populations. Ça perturbe les écosystèmes, évidemment. Et c'est ça pourquoi c'est la troisième édition cette année de la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés.
Et voilà. Écoutez, le temps file et on se lance dans un bloc biodiversité OGM, des sujets passionnants puisqu'ils en sont. Et puisqu'ils nous concernent directement, je me lance avec une excellente nouvelle qui est sortie du Brésil. Le président Luiz Inácio Lula da Silva qui a annoncé la création de deux réserves environnementales qui vont être faites en Amazonie. On parle de 2000 km² qui vont être protégés, donc des aires protégées, qui vont être des aires extractivistes, comme on les appelle, c'est-à-dire qui vont vraiment permettre aux populations populations qui vivent en Amazonie d'utiliser les ressources, c'est-à-dire le fruit, bon, les arbres à caoutchouc et tout ça, les petites exploitations comme on les appelle, mais qui ne permettront pas l'exploitation forestière et minière et autres, pensons notamment aux questions pétrolières. Donc une excellente nouvelle qui a été reçue avec évidemment beaucoup d'optimisme dans le monde environnemental, notamment chez Greenpeace qui travaille très fort en Amazonie depuis longtemps pour justement s'assurer de la protection de cet écosystème majeur, les forêts tropicales étant bon un des écosystèmes où en fait la plus grande biodiversité au monde, c'est à mentionner, et on lève notre chapeau par le fait même à monsieur Luis Ignacio Lula da Silva.
Juste petite précision, on ne parle pas de 2 000 km², mais bien de 2 millions d'hectares. Un gros mouton de terrain.
C'est en fait la même chose, mais on s'entend, c'est beaucoup, beaucoup. 2000 km², évidemment, c'est une superficie impressionnante. On continue, biodiversité, avec... y a-tu quelqu'un qui veut se lancer?
Ben, moi, je vous fais une biodiversité. On va avoir une nouvelle sorte d'animal sur la Terre.
Yeah!
Eh bien, oui, vous savez qu'il y a des gens qui sont allergiques aux chats. Eh bien, nos États-Unis favoris, qu'ont-ils inventé? Eh bien, oui, ils l'ont inventé. Vous n'en doutez pas. Le chat OGM.
Oh!
Soit le chat génétiquement modifié. $3,500 US, vous pouvez avoir un petit minou qui a été modifié. Ses poils, sa salive, puis tout autre de ses excrétions ne feront pas éternuer aucun être humain. À partir de 2007, ce sera disponible. On pense en vendre 200 000 la première année. Et imaginez à des millions d'exemplaires, ça permettrait peut-être à 10 % des États-Unis d'avoir un petit mini.
Oh,
c'est fun.
Le 10 novembre passé, le gouvernement du Québec mettait en ligne ogm.gouv.qc.ca. On vous invite à aller voir ça pour vous faire votre propre idée. En fait, on nous donnait l'idée et on nous mettait sur la piste que c'était un site grand public qui voulait faire le point sur le sujet d'une façon factuelle et compréhensible en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances, notamment en ce qui concerne l'utilisation des OGM dans l'agriculture intensive ou industrielle. Mais ce que le site nous dit pas, dans le fond, c'est ce qu'on ne sait pas. Et en fait, il y a beaucoup de limites à toutes nos connaissances scientifiques sur les OGM et il y a beaucoup de gens, dès le lendemain matin, on avait Greenpeace qui venait décrier le montage du site. Il y a la CAPA, donc... comment ça s'appelle? La Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, qui avait fait des recommandations et qui sont un peu déçus. On a même
l'Union paysanne,
l'Union des consommateurs, qui sont déçus aussi. En fait, on dit qu'on ne parle pas vraiment des vraies choses ou qu'on manque beaucoup de nuances et de détails sur toutes les tenants et aboutissants des OGM. En fait, peut-être que ça pourrait être une occasion pour chacun de nous tous d'envoyer un petit message à Monsieur Charest, qui va probablement pouvoir faire des allocutions à ce niveau-là au congrès du Parti libéral du Québec qui se tient du 19 au 21 novembre. Alors, ça serait intéressant qu'on lui rappelle que selon Greenpeace, quelques 85% des Québécois et Québécoises sont pour l'étiquetage des OGM, et ça ne s'est pas passé. Alors, quand on parle d'informer les Québécois au sujet des OGM, on ne parle pas de monter un site, on parle de leur dire s'il y en a ou il n'y en a pas dans la bouffe qu'ils achètent sur leurs étalages.
Mais justement, pendant que tu parles de l'étiquetage, vous savez, c'est la question centrale avec les OGM, on veut savoir qu'est-ce qu'on mange. Et puis, il y a la présidente de la Commission parlementaire de l'agriculture à l'Assemblée nationale, donc Fatima Ouda Pépin, qui s'est prononcée sur la question de l'étiquetage et qui dit elle-même que le Québec devrait appuyer un programme d'étiquetage obligatoire des aliments qui en fait devrait être une norme recherchée en matière de qualité. Donc évidemment, elle s'oppose à sa collègue Françoise Gauthier, ministre de l'Agriculture, qui met des bâtons dans les roues depuis le début du dossier. Une promesse en fait électorale du Parti libéral qui avait dit qu'on allait étiqueter de façon obligatoire les OGM. Et puis maintenant, Françoise Gauthier qui dit qu'on devrait attendre le Canada pour qu'on fasse un programme unilatéral à l'ensemble du Canada, évidemment. Tout ça pour reporter le dossier. Très dommage, mais extrêmement intéressant de voir la prise de position de Mme Fatima Ouda Pépin, rappelons-la, présidente de la Commission parlementaire de l'agriculture et de l'Assemblée nationale.
Je pense que c'est Pépin.
Pépin, qu'est-ce que j'ai dit? Ouda Pépin. Pépin, pardon. Alors, c'est ce qu'il va faire le tour de la question sur les OGM. On s'en va en musique, puis on revient avec... les petites brèves et petites vites.
Yeah.
De retour à Délirium environnemental, on finit la revue de presse avec tous ceux qu'on n'a pas été capable de vous plugger. Puisqu'il y a des tonnes d'informations en environnement, on y va avec les brèves, les petites vites. Qui se lance?
Eh bien, l'ours polaire risque d'être en voie de disparition. Je vous le rappelle, l'ours polaire, les changements climatiques, ça fond dans le nord.
Mais j'ai vu donc, il y a un rapport qui est sorti sur les 9 premières années des OGM aux États-Unis. Et on nous dit que finalement, il y avait eu une augmentation de 122 millions de livres de pesticides et d'herbicides, même si à la base, la promesse était de produire des OGM pour, ou plutôt produire des semences OGM pour réduire l'usage de pesticides. Quelle erreur!
Incroyable! Vous savez qu'à Bromont, on va accueillir la première usine de construction d'éoliennes faite par la firme AAER Systems, une entreprise montréalaise, une PME qui va construire d'ici 2005. En fait, ça va rentrer en branle pour construire des éoliennes, pardon, à Bromont.
Eh bien, Hydro-Québec, les environnementalistes ont salué leur plan d'efficacité énergétique. Je vous salue également, mais je vous parle d'une nouvelle beaucoup plus loufoque. Il paraît, vous savez c'est quoi dans le fond, l'embonpoint, l'obésité aux États-Unis. Eh bien, il paraît que l'obésité aux États-Unis dans les voyages en avion a fait qu'ils ont brûlé plus de 350 millions de gallons d'essence par année. Donc, le fait de devenir gros et de prendre l'avion cause les changements climatiques. Et les ours polaires, je vous le rappelle, sont en voie de disparition.
Imaginez-vous donc que BP, la British Petroleum, possède une branche solaire depuis 30 ans, je ne savais même pas. Et pour la première fois depuis 30 ans, la BP solaire vient de marquer des profits pour une fois. On se dit qu'on est sur la bonne voie et qu'il y a de la business à faire avec le solaire, particulièrement avec l'Allemagne et le Japon.
Hey, connaissez-vous le projet de Cape Wind au large de Cape Cod? En fait, un projet controversé de parc éolien sur mer. Les gens là-bas avaient peur de perdre leur beau paysage maritime. Eh bien, ça a été accepté par le Engineer U.S. Army Corps of Engineers, donc les ingénieurs de l'armée états-unienne ont accepté le projet. 130 éoliennes en mer, on parle de 420 mégawatts, un projet intéressant qui perturberait un peu la faune, mais l'impact serait serait moindre que les bateaux qui passent depuis si longtemps, ces beaux bateaux pour faire du ski nautique. Donc, un projet intéressant, évidemment, puisqu'on parle d'éoliennes, on parle de production d'énergie à partir du vent et à partir d'une énergie verte qui ne fait pas d'émissions de gaz à effet de serre.
Est-ce que vous vous rappelez du drame de Bhopal, la ville indienne où, en 1984, il y a eu un accident industriel très meurtrier? On parle de 4000 personnes qui sont mortes en l'espace d'une semaine et une dizaine de milliers d'autres dans les quelques années qui ont suivi. Eh bien, la BBC vient de revisiter le site et on s'aperçoit qu'il y a des millions de tonnes de déchets toxiques qui restent conservés dans des mauvaises conditions et qui empoisonnent la ville.
Et pendant que tu parles d'Inde, juste rapidement, il y a 40% des habitants de New Delhi qui souffrent de la pollution de l'air. On parle d'une détérioration massive de la qualité de l'air pendant les dernières années. Un fait extrêmement inquiétant. Et voilà, c'est ce qui va faire le tour de la revue de l'actualité, revue de presse pour cette semaine. Délirium environnemental, évidemment. Après la pause, on a le plaisir de s'entretenir avec M. Clifford Lincoln.